Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 19 septembre 2023 et nous sommes rendus à l'épisode 179 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, je veux revenir tout d'abord sur les données de l'inflation au Canada. Ce matin, c'était les chiffres de l'IPC pour le mois d'août. Donc, on va regarder qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Il y a également la grève du syndicat des United Auto Workers aux États-Unis. Donc, ça, c'est dans le secteur des constructeurs automobiles. Je veux également parler de la dernière présentation d'Apple. Donc, par rapport à ses derniers produits, le dernier iPhone, AirPods et compagnie. Et je vais terminer en vous parlant du retour des IPO en 2023. Les IPO, qui est les introductions en bourse. Donc, il y a quelques compagnies qui ont fait récemment leur IPO. Et je vais un peu parler de c'est quoi un IPO. Et surtout, je vais vous parler de pourquoi, personnellement, j'investis pas dans des actions qui viennent de commencer à trader sur les marchés boursiers. Donc, c'est un peu ça le contenu de l'épisode d'aujourd'hui. Et je vais commencer tout de suite en vous parlant des données par rapport à l'inflation. Donc, ce matin, on obtenait l'IPC au Canada pour le mois d'août 2023, donc le mois passé, et on a pu voir que l'IPC a augmenté à 4%. Et je vous rappelle que l'IPC avait diminué à 2,8% en juin, elle avait remonté par la suite à 3,3% en juillet, et là, comme je vous dis, au mois d'août, on est déjà retourné à 4%. Et tant qu'à moi, ça, c'est juste le début de la remontée de l'inflation. Je pense que ça va être pire pour les prochains mois. Et à titre de comparaison, si on regarde du côté du baril de pétrole brut, en juin, le baril oscillait autour de 70 US. Et là, aujourd'hui, le baril WTI il est rendu tout près de 93 US. Donc, on parle d'une hausse d'environ 35%, et ça en quelques mois. Donc, logiquement, le prix de l'essence ordinaire, il va continuer de monter. Là, on parle d'environ 1,80 $. Ça, c'est au nord de Montréal, dans les Laurentides. Et si la tendance se maintient, on pourrait se rendre pas loin du 2 $ le litre, peut-être même plus. Donc, c'est sûr que, comme je l'ai déjà expliqué, en plus du coût pour se déplacer là, pour les particuliers, les entreprises, l'essence, c'est aussi une composante importante dans le prix de beaucoup d'autres produits. Et c'est pour ça que tant qu'à moi, c'est ça qui va faire repartir l'inflation à la hausse. Et c'est pas impossible que d'ici la fin de l'année 2023, avec les données de l'IPC, on voit un taux d'inflation autour de 5%. Donc, c'est sûr que une inflation qui reste à des niveaux aussi élevés que ça, ça pourrait inciter la Banque du Canada à continuer sa politique monétaire restrictive, même si on voit un ralentissement du côté de l'économie. Sinon, si on regarde du côté des États-Unis, demain, c'est l'annonce de la décision de la Fed par rapport au taux directeur. Donc, le consensus, c'est que la Fed va maintenir son taux directeur à 5,50%, donc 5,5%, mais qu'elle va laisser la porte ouverte à d'autres hausses pour les prochains mois. Et je suis du même avis, je pense que la Fed va opter pour le statu quo concernant son taux directeur, ça pour mercredi cette semaine. Et même si pour l'instant, l'économie américaine semble un peu plus résiliente que l'économie canadienne au niveau des données par rapport au PIB, le taux d'inflation aux États-Unis il était de 3,3% pour le mois d'août, comparativement à nous de notre côté au Canada, qui est rendu à 4%. Donc l'inflation semble légèrement mieux contrôlée aux États-Unis, mais tu sais, il faut quand même considérer qu'il y a un écart de 0,5%, donc 50 points de base, entre le taux directeur de la Fed versus la Banque du Canada. Donc comme je vous dis, ça se peut que les chiffres de l'IPC qui viennent de sortir, les prochains qui vont sortir au mois d'octobre, mais c'est sûr que ça peut mettre de la pression au gouverneur de la Banque du Canada et que, comme je vous dis, on voit une hausse de 25 points de base d'ici la fin de l'année 2023 et là, on se retrouverait à 5,25% au Canada comme taux directeur. Et pour terminer sur le volet économique, on a pu voir dans un récent rapport que la dette des consommateurs canadiens, elle a atteint 2,4 billions de dollars. Et là, juste pour préciser, 1 billion, c'est l'équivalent de 1000 milliards. Et là, évidemment, ce qui contribue à cette dette massive-là, c'est les soldes de cartes de crédit. Et si on regarde au Canada, pour les soldes sur les cartes de crédit, on parle d'un sommet historique qui est à plus de 107 milliards de dollars. Donc, les gens mettent beaucoup, beaucoup de dépenses sur leurs cartes de crédit et les soldes sont vraiment, comme je vous dis, ça n'a jamais été aussi élevé que ça. Faut comprendre que c'est quand même biaisé un peu. Ce que je veux dire par là, c'est que faut quand même considérer dans l'équation l'inflation. Là. Si tout coûte plus cher, nécessairement, si tu fais les mêmes dépenses, ton solde va être plus élevé. Mais là, on parle de l'inflation plus le fait que les gens s'endettent beaucoup pour arriver à tout payer. Ensuite, je vais vous parler de la fameuse grève du syndicat des United Auto Workers, donc qui sont des ouvriers dans l'industrie de l'automobile américaine. Et cette grève-là, ça va venir affecter les usines de Ford, GM, qui est General Motors, et Stellantis. Stellantis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un constructeur automobile qui résulte de la fusion entre ces Peugeot, Citroën et Fiat Chrysler. Et cette fusion-là a eu lieu en 2021 et ça a donné naissance à Stellantis. Et là, il faut comprendre que le syndicat des ouvriers, il réclame quand même des bonnes hausses salariales. On parle d'une hausse équivalente à 46% sur une période de 4 ans. Et il demande également une semaine de travail de 32 heures sur 4 jours, mais payé comme 40 heures. Et leur principal argument, c'est que depuis 4 ans, la rémunération des PDG des trois constructeurs automobiles, Ford, GM et Stellantis, la rémunération des PDG a augmenté de 40%. Donc, eux autres, dans leur tête, c'est que si la rémunération des PDG augmente de 40%, ça devrait être la même chose pour les travailleurs, les ouvriers. Et de plus, ils se basent également sur le fait que c'est conséquent avec les bénéfices records des constructeurs automobiles et qu'à ce moment-là, la richesse, les profits devraient être redistribués de façon plus équitable. Donc ça, c'est le premier volet, c'est le côté plus économique. Eux autres, ils considèrent que là, vu que les bénéfices sont vraiment plus importants, les ouvriers devraient en profiter aussi. Et le syndicat des United Auto Workers, ils plaident également par rapport à la sécurité des emplois, parce que dans le fond, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'il y a une transition présentement vers les véhicules électriques et ils veulent éviter que le job, en fait, les jobs dans l'industrie automobile soient exportés en Chine, parce que là-bas, veut pas, ils en produisent pas mal des véhicules. La Chine est actuellement le plus grand exportateur de voitures dans le monde, donc ça a même dépassé le Japon qui a longtemps été le premier exportateur mondial. Mais bref, la grève du syndicat des travailleurs dans le secteur automobile américain, ça va avoir un impact premièrement sur les actions de Ford, GM et Stellantis, mais ça peut également avoir un impact sur le prix pour les consommateurs. Donc évidemment, ça dépend de la durée de la grève. C'est-à-dire que si la production, mettons, elle arrête pendant plus de 3 semaines, ben là, il va y avoir comme une pénurie de véhicules neufs. Et là, à ce moment-là, ça pourrait pousser les prix à la hausse pour certaines voitures neuves. Donc, c'est un peu la crainte présentement vis-à-vis la grève des United Auto Workers. Et un autre élément à considérer avec cette histoire-là, c'est que oui, les ouvriers veulent une hausse salariale, mais la question à se poser, c'est pourquoi? Pourquoi ils veulent ça là? La vraie raison, c'est parce que le coût de la vie a fortement augmenté en raison de l'inflation, la hausse des taux d'intérêt. Et là, leur revenu ne leur permet pas d'avoir le même pouvoir d'achat qu'avant. Sauf que là, il faut comprendre toute la mécanique derrière ça. S'il y a une hausse des salaires des travailleurs, ça va nécessairement se répercuter sur le prix de vente des véhicules neufs. Je veux dire, ça te coûte plus cher le produit, tu veux garder ta marge similaire, tu vas augmenter les prix. Sauf qu'ensuite, ça va être le tour de d'autres syndicats de lutter pour l'augmentation des salaires de tel ou tel travailleur, parce que si les voitures coûtent plus cher, puis tout ça, ça coûte plus cher, ben tu vas vouloir avoir une augmentation salariale pour toi aussi être capable de payer ta voiture et d'autres trucs. Et ça, ça va créer une hausse du prix des produits sous-jacents. Et c'est un peu comme un cercle vicieux d'inflation. Il faut savoir que les salaires, en fait, ça représente simplement le prix de la main-d'œuvre. Comme je vous dis, étant donné que chaque dollar vaut moins, ça prend plus de dollars pour tout le monde pour acheter la même affaire, incluant le prix des biens, le prix des services et, comme je vous dis, le prix de la main-d'œuvre. Et ce qui m'inquiète un peu par rapport à ça, c'est que c'est potentiellement le début d'une vague de grèves et de demandes syndicales. C'est-à-dire que là, c'est l'industrie automobile, mais ça pourrait être n'importe quelle autre industrie qui demande que leurs travailleurs aient une augmentation de salaire pour être en mesure de suivre le coût de la vie. Mais là, si tu fais ça à grande échelle, l'ensemble des prix va juste monter et là, tu n'es pas en train de régler le problème de l'inflation. Et tout ça pour dire qu'on va suivre l'histoire de la grève des United Auto Workers, voir si les constructeurs automobiles vont concéder à leurs demandes, combien de temps la grève va durer et un peu voir en fait qu'est-ce qui va se passer avec tout ça. Sinon, si on passe à un autre sujet, la semaine passée, c'était la conférence du mois de septembre pour Apple, en fait, qui venait présenter ses nouveaux produits. Donc, on parle du iPhone, les AirPods Pro 2e génération, le nouveau iOS 17, qui est d'ailleurs disponible depuis hier, si je ne me trompe pas. Et en fait, un des plus grands changements qu'on a pu voir sur les produits Apple, c'est au niveau de la prise pour charger les appareils, qui va devenir un port USB-C. Et cette modification-là vient du fait que les autorités de l'Union européenne y ont exigé que tous les téléphones intelligents aient le même type de port de chargement, donc pour que ça devienne un standard dans l'industrie. Comme vous le savez sûrement, les appareils Android utilisent déjà le port USB-C, donc il fallait que Apple fasse le move, donc ils n'ont pas le choix de délaisser leur fameux chargeur Lightning, qui était le connecteur spécifique aux produits d'Apple. Ça faisait partie de leur écosystème. Donc ça, c'est un des updates par rapport au iPhone 5. Sinon, il y a la sortie du Vision Pro, qui est le casque de réalité augmentée d'Apple, qui est toujours prévu pour 2024. Au Canada, ça va être fin 2024. Et d'ailleurs, une affaire intéressante à constater, c'est que avec la version Pro ou Pro Max du iPhone 15, tu vas pouvoir enregistrer des vidéos en format 3D et ces vidéos-là vont pouvoir être visionnées sur le Vision Pro, donc ça va être compatible. Et donc le iPhone 15, la version Pro ou Pro Max, c'est le premier téléphone qui offre ce type d'enregistrement-là. Et tu sais, il y a bien du monde qui chiale sur le fait que les téléphones Apple, ils se ressemblent pas mal d'une année à l'autre et qu'il n'y a pas de grosse révolution de ce côté-là. Mais tu sais, c'est pas l'objectif d'Apple non plus. Eux autres, ils veulent un nouveau téléphone à chaque année, oui. Mais en même temps, ils veulent continuer de fournir aux habitués d'Apple un téléphone qui se ressemble, qui garde les mêmes habitudes. Puis tu sais, oui, ils veulent de l'amélioration continue d'une génération à l'autre. Mais tu veux pas perdre tu veux pas avoir le sentiment de tout réapprendre à chaque fois qu'ils achètent la dernière version. Et en même temps, le produit révolutionnaire, ça sera pas le téléphone. Là, ça serait plus avec le casque Vision Pro qui risque dans l'avenir de devenir un produit très intéressant. Peut-être plus que le monde le voit présentement, surtout au prix qui est affiché. Sinon, je rappelle que présentement, le iPhone, ça reste la vache à lait d'Apple. T'sais, en termes de chiffres, les ventes de téléphones représentent environ la moitié du revenu d'Apple, donc la moitié du chiffre d'affaires. Au dernier trimestre, la vente d'iPhone a généré près de 40 milliards de dollars US. Donc ça, c'était au dernier trimestre de 2023. Donc en résumé, Apple, ils doivent s'assurer de garder leurs clients fidèles puis de leur donner juste un minimum d'incitatifs pour upgrader leur téléphone. Tu sais, c'est sûr que si on regarde depuis le iPhone 12 jusqu'au iPhone 15, on n'a pas vu énormément d'évolution technique. Tu sais, oui, une meilleure durée de batterie, un meilleur appareil photo, tout ça. Mais ça reste que les fans d'Apple, les adeptes, semblent avoir le désir quand même d'obtenir le plus récent modèle. Et je fais personnellement partie des clients d'Apple. Je suis un fan du iPhone depuis des années, mais de mon côté, je change de téléphone à peu près, en fait, juste aux 2 ans, quand mon contrat avec TELUS termine. Donc, en même temps de reprendre un nouveau forfait, ben, je change de téléphone. Et c'est pas un add-on non plus que je sois actionnaire de TELUS et d'Apple. Tu sais, je commence souvent mes recherches d'investissement à partir des entreprises que j'aime puis que je suis déjà un client. Donc, comme je vous dis, j'ai un téléphone Apple et mon fournisseur de services mobiles, c'est TELUS. Bref, pour conclure à propos d'Apple, comme vous le savez, je suis actionnaire, je reste un investisseur qui est confiant envers l'entreprise, le brand est solide, l'écosystème fonctionne bien, puis je suis confiant qu'ils vont continuer de sortir des produits qui vont être plus innovants dans l'avenir. Et si jamais, encore une fois, le prix des actions se met à continuer de chuter, puis qu'il devienne un prix, disons, plus attrayant, je vais grossir ma position dans Apple parce que je reste confiant envers cette entreprise-là. Et pour terminer l'épisode, je vais vous parler des plus récents IPO sur les marchés américains et vous donner mon avis par rapport aux introductions en bourse, ma vision par rapport à ça en tant qu'investisseur. Et jeudi passé, c'était le IPO de la compagnie Arm Holding, symbole ARM, Arm, qui est une compagnie britannique qui développe des processeurs qui sont principalement utilisés dans les téléphones mobiles. Et hier, l'action ARM, elle a atteint le market cap de 82 milliards de dollars, donc market cap, capitalisation boursière. Et avec ce market cap-là, ça représente un multiple de 23 fois les ventes, donc le chiffre d'affaires de l'entreprise, et ça, c'est énorme. C'est-à-dire que, juste pour vous donner un comparatif, la valeur d'Apple, c'est l'équivalent de 7 fois son chiffre d'affaires. Si on regarde Microsoft, c'est à 11 fois son chiffre d'affaires. Nike est à 3 fois. Bref, le ratio prix-vente de 23 pour ARM, ça laisse croire que l'action est très surévaluée présentement par le marché. Et c'est un peu normal, il y a un hype du fait qu'il y a un IPO et que les investisseurs se jettent sur ce type d'action-là. Je pense que ça reste un titre qui est surévalué pour le moment, mais l'avenir nous le dira. Et aujourd'hui, il y avait aussi un autre IPO, c'est celui de Instacart, symbole C-A-R-T. Et ça, c'est une compagnie de livraison d'épicerie à domicile. Donc, tu passes ta commande, il y a quelqu'un qui va magasiner tes trucs à l'épicerie. Puis après ça, il vient de porter ça directement à chez vous. Mais bref, avec Arm et là, Instacart aujourd'hui, il y a un regain d'intérêt envers les IPO. Et ça m'amène justement à vous parler de c'est quoi un IPO et pourquoi je suis de l'avis qu'il faut mieux éviter d'embarquer dans la frénésie d'une action dès ses premiers jours sur les marchés boursiers. Donc, premièrement, IPO, c'est pour Initial Public Offering, ou en français, c'est premier appel à l'épargne publique. Et en fait, ce processus-là, c'est quand les parts d'une entreprise qui est initialement privée deviennent cotées en bourse. En gros, la valeur de l'entreprise est évaluée par une firme, puis là, la compagnie décide de vendre ses actions pour aller chercher du financement, en fait, du capital pour financer sa croissance puis son développement. Et à ce moment-là, les parts de la compagnie sont subdivisées en millions d'actions. Tu sais, au début, on parle de 100 actions pour une compagnie, mettons un Inc. Mais là, on va subdiviser toutes ces actions-là en plusieurs millions et ça va être mis plus tard en circulation sur les marchés boursiers. Par exemple, disons qu'une entreprise est évaluée à 300 millions de dollars. Donc, on peut émettre 10 millions d'actions et chaque action va coûter 30 dollars. Donc, 30 dollars fois 10 millions d'actions, ça donne 300 millions de dollars de market cap, capitalisation boursière en français. Il faut comprendre que la grande majorité de ces actions-là, ils vont être disponibles pour les investisseurs sur les marchés boursiers. Et c'est là, en fait, qu'on va justement acheter, vendre des actions. C'est là que c'est transigé. Et ce qui est important de comprendre, c'est que l'entreprise qui est introduite en bourse, elle récupère de l'argent seulement lors de la vente initiale de ses actions aux firmes de courtage, ce qu'on appelle le marché primaire. Ensuite, l'entreprise, elle ne fait pas d'argent avec les transactions qui se passent sur les marchés financiers. Tu sais, la bourse, c'est un marché secondaire et c'est là que les investisseurs y achètent puis ils vendent des actions qui sont déjà émises, des actions qui sont en circulation. Et petite parenthèse, les fondateurs d'une entreprise, ils peuvent continuer d'être actionnaires même si la compagnie est introduite en bourse. Par exemple, Jeff Bezos, il possède encore environ 10% des actions d'Amazon. Donc logiquement, on peut comprendre que sa valeur nette fluctue en fonction du prix des actions d'Amazon. Donc son net worth, il peut varier de plusieurs milliards en quelques jours là, selon ce qui se passe sur la bourse. Et les actions flottantes, ce qu'on appelle le float en anglais, c'est la portion des actions en circulation qui sont disponibles sur la bourse pour les investisseurs. Et l'autre portion, là, les autres actions, eux autres sont détenues par les insiders et les investisseurs avec un contrôle sur l'entreprise. Par exemple, le fondateur, le PDG. Donc, les actions détenues par ces personnes-là ne font pas partie du float, ils font pas partie des actions que vous et moi, on peut échanger sur la bourse. Donc, c'est un peu ça, les procédures derrière un IPO. C'est pour ça qu'une entreprise s'introduit en bourse, c'est pour aller chercher du capital. Puis ensuite, les actions qui étaient initialement privées deviennent ouvertes au grand public. Donc, les investisseurs peuvent devenir actionnaires. Et finalement, pour répondre à la question initiale, pourquoi je n'investis pas dans les entreprises qui viennent de faire leur IPO? En fait, la principale raison, c'est que souvent, la compagnie a pris la décision stratégique de s'introduire en bourse à ce moment précis-là. Autrement dit, il décide de faire le IPO au moment, théoriquement, où il y a le plus d'intérêt et d'optimisme envers leur compagnie et leur industrie. Et ça, c'est dans le but, évidemment, d'obtenir une meilleure évaluation et aussi que les investisseurs viennent gonfler le prix des actions qui sont nouvellement cotées en bourse. Il faut savoir qu'une introduction en bourse, c'est souvent une mécanique pour des partenaires financiers de passer à la caisse. Autrement dit, là, tant que l'entreprise reste privée, si personne achète l'entreprise au complet, le partenaire financier, il reste coincé avec des parts. Puis oui, les parts, ils valent de quoi, mais ils valent rien si personne vient les acheter. Par contre, avec un IPO, un partenaire qui avait investi initialement dans une entreprise, bien une fois que l'entreprise est cotée en bourse, il peut librement vendre ses parts puis prendre l'argent. Et ce qui est malheureux avec cette stratégie-là, qui est une mécanique parfaitement légale, c'est malheureux parce que normalement, si l'entreprise veut être cotée en bourse, on s'attend à ce qu'elle veuille obtenir du capital pour financer sa croissance puis grossir encore plus. Mais comme je vous dis, parfois, la business entre en bourse à son pic, à son plus haut potentiel, lorsqu'il y a le plus d'optimisme. Et finalement, c'est juste une façon pour les partenaires financiers de faire une passe de cash parce qu'eux autres, dès que l'entreprise est cotée en bourse, « Wow, moi je vends mes actions, je ne veux plus avoir de part de cette entreprise-là. » Passe à la caisse, ramasse le cash. Mais tu sais, après ça, il y a des investisseurs qui croient à l'entreprise puis qui achètent justement des actions. Mais là, évidemment, ce n'est pas toujours le cas. Il faut comprendre que toutes les entreprises qui sont aujourd'hui cotées en bourse, ils ont toutes passé par un IPO. C'est juste que personnellement, je ne vais pas acheter des actions après quelques jours, quelques mois de trading en bourse. Je vais attendre de voir des états financiers, je vais attendre de voir ses perspectives, ses rapports annuels, quitte à acheter plus tard, à un prix plus élevé, mais être sécurisé par rapport à mon investissement. Je ne veux pas faire partie des premiers investisseurs dès les premiers jours du IPO. Je pense que souvent, ça vient avec une frénésie, un hype par rapport au titre. Donc, c'est mon avis par rapport au IPO, ou plutôt aux actions qui viennent d'être introduites en bourse. Donc, moi, je ne prends pas position là-dedans, mais évidemment, on peut le voir avec beaucoup, beaucoup d'autres entreprises cotées en bourse. Il y en a qui font leur IPO et que 5, 10, 15 ans plus tard, le prix de l'action est décuplé. Ce n'est pas la mécanique derrière le IPO qui ne fonctionne pas. Ce n'est pas toujours une manière pour les partenaires financiers de passer à la caisse. Sauf que moi, j'évite de prendre position quelques jours ou quelques mois après le IPO. Je préfère être un actionnaire à long terme une fois que l'entreprise a fait ses preuves. Et pour finir l'épisode d'aujourd'hui, cette semaine, il y a le film Dumb Money qui sort dans les cinémas. Et je vous parle de ce film-là parce que ça raconte l'histoire du short squeeze avec les actions de GameStop en 2021. On se souvient qu'il y avait des petits investisseurs, des retail traders sur les forums de sur Reddit, en fait, dans la section Wall Street Bet. Et eux autres qui ont fait la passe de cash en misant sur la hausse du prix des actions de GameStop, qui avait littéralement explosé en début 2021. Et de l'autre côté, en même temps, il y avait aussi des gestionnaires de hedge funds qui avaient perdu des milliards de dollars en misant sur la baisse du prix de l'action en faisant du short selling, qui est de la vente à découvert. Donc, je ne sais pas si le film va sortir ici au Québec, mais sinon, allez voir la bande-annonce sur YouTube. Donc, ça s'appelle « Dumb Money ». Et la date de sortie du film est prévue pour jeudi le 21 septembre. Donc, je ne sais pas si ça va être dans les salles au Québec, mais définitivement un film que je vais essayer de regarder parce que l'histoire de GameStop, ça a quand même été quelque chose de majeur en 2021. L'espèce d'engouement du trading pendant que tout le monde était en confinement avec la pandémie. Donc, le nom du film, c'est Dumb Money et ça sort jeudi cette semaine. Donc, je vais terminer l'épisode là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que vous avez trouvé le contenu du podcast intéressant. Si oui, laissez un 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts. Partagez le podcast à vos amis. Il y a également le podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube, Traders360. C'est le podcast, mais en format vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner là-dessus aussi. Et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.